Commencer aujourd'hui tout de suite ce troisième aspect de la philosophie, de la métaphysique, de la philosophie première, le problème de l'un et du multiple. On aurait pu traiter ce problème au point de départ. Pour certains philosophes, ce problème aurait dû être traité au point de départ. Forcément, quand on expose une pensée philosophique, il faut bien, du moins quand on expose ce que représente la philosophie première, il faut bien commencer par une option. Il faut ensuite la justifier, c'est bien évident. Pour quelqu'un comme Remacher, je prends ça parce que c'est un exemple typique d'aujourd'hui, il faudrait commencer la philosophie première par le problème de l'un et du multiple. Et à ce point de vue-là, il se rattache à tout un grand courant, qui est le courant des néoplatoniciens, qui est le courant de Plotin, qui est le courant de Platon. Alors, si toute la philosophie occidentale n'est qu'une herméneutique de la philosophie de Platon, on comprend très bien que le problème de l'un et du multiple prend une place absolument capitale. On ne peut rien comprendre à la pensée néoplatonicienne sans regarder le problème de l'un et du multiple. C'est dit explicitement chez Plotin, donc ça c'est pas ce que je dis, mais c'est ce que Plotin lui-même dit. Le problème philosophique, le seul problème philosophique, le problème majeur philosophique, c'est de savoir comment de l'un provient le multiple. Et l'origine du multiple par rapport à l'un. Il faudra se demander au terme, qu'est-ce que ça correspond? Parce que c'est intéressant de voir une interrogation posée de cette manière-là. En montrant que c'est au cœur de toute la philosophie, de toute la pensée philosophique, le problème des rapports du multiple et de l'un. C'est sûr que d'une certaine manière, c'est le problème de l'un et du multiple qui ferait l'unité de tous les systèmes philosophiques. Le grand œcuménisme philosophique, c'est le problème de l'un et du multiple. C'est pour ça qu'on est toujours un peu séduit par cela. On est séduit d'essayer de comprendre comment le problème de l'un et du multiple, qui tient une place très importante, ça il faut bien le reconnaître, va faire la grande unité entre tous les systèmes philosophiques, parce que tous les systèmes philosophiques en parlent. Je crois qu'il n'y a pas un système philosophique qui rejette le problème de l'un et du multiple. Je ne crois pas. Chercher, oui, alors il y en a qui disent que le multiple, c'est rien du tout, et que le multiple n'existe pas, et que seul existe l'un, ça c'est sûr. Mais le problème de l'un multiple est quand même traité. Tandis que le problème de l'ousia, le problème de l'acte n'est pas traité par tous. On peut dire que le problème philosophique a commencé par la phusis, progressivement l'ousia est apparue, et je crois qu'elle est apparue avec Platon. Vous savez bien, les critiques qu'on fait dans les... C'est vrai, les textes avant Platon, quelquefois, emploient sur l'ousia, mais il semble bien que ce soit beaucoup plus la phusis. Et que l'ousia a pris toute sa signification avec Platon, Aristote. Puis on a vu comment l'ousia avait disparu dans les philosophies contemporaines, et qu'on ne pouvait plus en parler. Tandis que le problème de l'un et du multiple, je crois, émerge tout le temps. Alors, à ce point de vue-là, suffrage universel, c'est l'un et le multiple qui passe avant. Vous voyez, ça c'est bien évident. C'est l'un et le multiple qui passe avant, qui fait que c'est l'un et le multiple qui est le problème capital, primordial de la philosophie occidentale. Et pas seulement de la philosophie occidentale, de toute la philosophie aussi de l'Inde. C'est encore le problème de l'un et du multiple. Autrement dit, c'est le problème humain par excellence. Si je me tourne vers le point de vue psychologique, je dirais que c'est encore le problème de l'un et du multiple. Voir les oppositions qui existent dans l'homme. Or, le problème de l'un et du multiple, on le verra, c'est le problème des oppositions. S'il n'y avait pas d'opposition, il n'y aurait pas d'un multiple. S'il n'y avait pas de division, il n'y aurait pas le problème de l'un du multiple. Donc c'est les oppositions et les divisions. Or, je crois que c'est au cœur encore de tout le problème psychologique. C'est au cœur de toute la pensée dialectique. C'est au cœur de toute la pensée proprement qu'on dit idéaliste. C'est extraordinaire de voir, faites un tout petit peu, quand vous suivez les cours d'histoire de la philosophie, posez-vous le problème à propos des divers philosophes, la place de l'un et du multiple. Vous verrez que c'est toujours ce problème de l'un et du multiple qui, de fait, se retrouve à travers tous les philosophes. Donc ça, il faut le comprendre, parce que ça, il faut d'abord bien comprendre l'importance de ce problème, l'importance unique du côté de l'extension. Du côté de l'extension, c'est sûrement le problème principal. Du côté de la compréhension, c'est là où on pourra discuter, où il faudra discuter. Est-ce que c'est le problème fondamental? Est-ce que c'est le problème premier du côté de la compréhension? Est-ce que c'est vraiment par l'un et le multiple que je vais le plus loin possible dans la réflexion sur la réalité existante? Ou au contraire, le problème de l'un et le multiple apparaît comme un problème second et qu'il faut le dépasser? Mais c'est au fond la question qu'on doit se poser. Alors on va regarder dans une petite topic très rapide les diverses positions. C'est toujours intéressant. Je vais faire ça très rapidement parce que mais ce serait intéressant de le faire d'une façon un peu plus approfondie pour bien saisir que de fait, constamment, autour de ce problème, on voit les affrontements. C'est le problème de la rivalité, l'un et le multiple. Au niveau psychologique, c'est très net. Vous voyez, mais même dans les applications très simples, vaut-il mieux avoir un seul ami ou d'en avoir beaucoup ? C'est le problème classique que les Grecs se posaient, qu'Aristote a reposé. Et c'est important. Vaut-il mieux s'approfondir dans un seul sens ou au contraire s'étendre dans des quantités de connaissances? Oui, problème de compréhension et d'extension. Au cœur de tout ça, c'est le problème de l'universel. C'est le problème de la logique. L'universel fait le lien entre l'un et le multiple. C'est extraordinaire. C'est pour ça que c'est si séduisant, la logique. Parce qu'elle est comme au-delà du problème de l'un du multiple. Et elle le résout par l'intelligence humaine. Elle met l'intelligence humaine au-delà du problème de l'un du multiple. Et c'est vrai. L'intelligence humaine a ce privilège de pouvoir unir les contraires. Et donc, si elle peut unir les contraires, il y a un petit pas à faire pour qu'elle puisse unir les contradictoires. Et ce petit pas à faire, il a été fait dans notre philosophie contemporaine. Il avait déjà été fait en Grèce, c'est bien évident, parce que la Grèce avait touché à tous les problèmes. Mais il a été repris avec beaucoup de force dans toute la philosophie contemporaine. Lisez à titre simplement d'exemple le livre de Carouge sur la mystique du surhomme. Carouge montre que toute la littérature depuis 100 ans, 120 ans, littérature artistique, littérature philosophique, a comme grand problème le dépassement de la contradiction. Si la contradiction est la division fondamentale et première, la division radicale, c'est à partir de la contradiction que toutes les oppositions se font. Et donc, toutes les multiplicités. C'est effrayant de voir que l'intelligence naît dans la dualité. C'est affreux pour un grec. On naît dans la dualité, l'affirmation et la négation. Alors qu'on voudrait tellement dépasser cette dualité, parce que c'est la première multiplicité, la dyade. On ne peut pas s'arrêter à la dyade. On faut l'unité. Et la dyade revient tout le temps, parce que l'affirmation et la négation reviennent tout le temps. Alors, on comprend qu'il y a là un problème très très foncier, très très foncier, du côté critique, du côté logique, du côté métaphysique. Constamment, on se heurte à ce problème. On se heurte à ce problème qui est, je dirais, peut-être si on regarde attentivement, le problème de l'homme dans ce qu'il a de plus profond, la multiplicité de notre conditionnement et l'unité profonde que nous recherchons, qui est cachée, qui est enfouie au plus intime de notre âme spirituelle, au plus intime de notre intelligence. Notre intelligence sait qu'elle raisonne. On ne peut raisonner que dans la multiplicité. Dès que vous êtes dans la simplicité, vous êtes dans le silence, que dit Plotin, n'est-ce pas ? Sigue, vous entrez dans le silence. C'est merveilleux. Le silence, même au-delà de la contemplation, vous entrez dans le silence. Dès que vous êtes dans la multiplicité, vous raisonnez. Vous opposez. Alors on comprend qu'il y a en nous perpétuellement intellectus ratio. L'intellectus, le besoin de l'unité, ratio, le conditionnement. Multiplicité, unité. Et c'est au cœur de toute notre vie. Je le prends, voyez, du côté de l'amour. Vaut-il mieux avoir plusieurs amis ou un seul ami qui soit vraiment un ami? Et du côté de l'intelligence, intellectus et ratio. Donc c'est vraiment le problème par excellence, hein, je crois. C'est le problème par excellence. Alors, c'est pour ça qu'on pourrait, je suis tout à fait d'accord, on pourrait commencer toute la recherche de la philosophie première par le problème de l'un et du multiple. Ce serait peut-être plus facile pour nos intelligences humaines. Vous voyez, au point de vue pédagogique. Au point de vue pédagogique, on pourrait. Il faudrait essayer de voir qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça correspond. Oui. Parce qu'au point de vue pédagogique, sûrement que c'est un des problèmes les plus tangibles. Le danger, ce serait de rester dedans. Ça, le danger. De ne pas voir la solution. Et d'être tout le temps d'un côté et de l'autre. C'est ça le danger, je crois. C'est pour ça que j'ai commencé par le jugement d'existence. Mais on pourrait se poser la question. On pourrait se poser la question, pouvons-nous entrer en métaphysique, en philosophie première, en mettant tout de suite le problème de l'un et du multiple? Ou est-ce que, en posant le problème de l'un et du multiple, on essaiera de le voir au terme? Parce que c'est intéressant, il faut quand même justifier certains points de départ et essayer de comprendre si je peux entrer en philosophie première par le problème de l'un et du multiple, ce serait plus facile. Ce serait plus facile parce que j'aurai là l'accord de tous les philosophes. Tandis que si je commence par le jugement d'existence, je n'ai pas du tout l'accord de tous les philosophes. Loin de là. N'est-ce pas? C'est très juste. Je ne l'ai pas du tout. Je le sais. Tandis que le problème de l'un est multiple, j'ai l'accord de tout le monde. Ça, c'est sûr. Personne ne peut nier ça. Même ceux qui ramènent toute la philosophie à la logique. Même, je dirais, surtout eux. Parce que pour eux, il n'y a que cette porte d'entrée. Il n'y en a pas d'autre. Ils ne pouvaient pas identifier la philosophie à la logique en dehors du problème de l'un du multiple. Mais par le problème de l'un du multiple, ah oui, c'est la porte royale de la logique. Alors, si c'est la porte royale de la logique, entrez par là. Mais est-ce qu'on peut en sortir? C'est la question. Posez-vous la question, parce que c'est intéressant, c'est important. Quand on aborde un problème, il faut essayer de le comprendre dans toute sa richesse et en même temps voir si, de fait, nous ne l'avons pas fait. Alors, est-ce que j'ai commis une erreur? Est-ce que là, j'ai oublié? Je ne suis pas assez pédagogique. Hein. C'est vrai, je comprends très bien. Il faut être beaucoup plus pédagogique. Et plus on vieillit, plus on est pédagogique. C'est vrai. C'est un signe de vieillesse d'une culture d'être purement pédagogique. C'est un signe de vieillesse. Quand il n'y a plus que ça, venez, on dit la pédagogie avant tout, uniquement la pédagogie au point de départ, la pédagogie au terme, uniquement la pédagogie. Est-ce que la pédagogie est une finalité? Est-ce que vous êtes pédagogue pour être pédagogue? Ou est-ce que vous êtes pédagogue pour les autres? C'est autre chose. Mais c'est important de saisir que le problème de l'un et du multiple, c'est le problème qui nous touche le plus dans notre sensibilité. Parce que la sensibilité, elle commence par être 5. 5 sensations. Heureusement qu'il y a le sens commun. Et on ne sait plus très bien ce que c'est. Heureusement qu'il y a le sens commun qui est là, qui ramène les 5 à l'un. Parce que c'est ça que fait le sens commun. Il ramène les 5 à l'un. Mais on commence par la diversité. Tout de suite. L'imagination n'en parle pas. Elle est vagabonde. Elle est dans la multiplicité. Tout le temps dans la multiplicité. Elle a une peine énorme de l'unité. Et même, je ne sais pas si elle y aboutit. Oui, la synthèse. La synthèse. Toute synthèse est imaginative. Il n'y a pas de synthèse en dehors de l'imagination. Alors au fond, c'est la manière de récupérer l'unité, vous voyez. Vous ramenez la diversité en une synthèse. Votre synthèse, on ne sait pas exactement ce que ça fait, mais ça fait une synthèse. Ça fait une image qui rassemble tout. Puis dans le domaine de la connaissance, on voit très bien la logique, c'est la multiplicité. Elle a l'unité. La logique qui réfléchit comprend qu'il faut l'unité. L'universel implique l'unité. Mais l'universel fait cette chose étonnante que seule l'intelligence peut faire, c'est que le multiple demeure dans l'un. Donc c'est la grande trouvaille. Je ne perds rien et je retrouve tout. C'est merveilleux l'universel. C'est l'attraction prodigieuse de la logique. Je suis dans le multiple et je suis dans l'un. Alors restons là. Alors je vois très bien comment l'universel est au cœur de toute la logique et de tout le raisonnement logique, parce que je crois que la logique ne sort pas de l'universel. Elle essaie de tout ramener à l'universel et elle veut tout ramener à l'universel, arriver à un universel concret. Donc elle veut tout ramener à l'universel. En partant de l'abstraction et en essayant de ramener tout à cela. Si je regarde le cheminement de mon intelligence, je vois que les raisonnements, ça joue une place énorme, et que j'arrive très difficilement à la contemplation. Un regard simple. Un regard simple. Ainsi de suite. Hein. Alors, regardons, si vous voulez, quelques aspects très simples, d'abord en philosophie grecque, hein, parce que c'est en philosophie grecque qui est le fondement de notre réflexion. Le problème de l'un et du multiple est au cœur de la philosophie d'Héraclite. Je crois qu'Héraclite est le premier philosophe de l'un et du multiple. C'est pas si mal. Si Parménide est le grand philosophe de l'un, alors ça oui. Et Zénon est là pour le dire. Trompette du jugement dernier, Zénon, par rapport à Héraclite. Hein. Alors Zénon dit que c'est l'un, le multiple n'existe pas. Enfin, nous savons ça. Et Héraclite, c'est au contraire, il part du multiple pour le recueillement de l'un. Et ça, c'est tout le problème de la pensée d'Héraclite. Héraclite affirme à maintes reprises l'unité des contraires. C'est le philosophe des contraires, Héraclite. Et c'est le philosophe qui veut le dépassement des contraires. Joignez tout et non tout. Concordant, discordant. Consonant, dissonant. Et de toute chose, un et d'un tout. C'est beau comme phrase. Hein? C'est dans le fragment B10. C'est assez merveilleux, ça, de pouvoir faire ça, tu vois. Joignez, le besoin d'unir tout et non tout, concordant et discordant, alors vous avez la table des contraires, quoi, consonant et dissonant, et de toute chose, un et d'un tout. Un et le même, vie et mort, veille et sommeil, jeunesse et vieillesse, car ceci change en cela, et cela change de nouveau en ceci. Vous passez toujours de l'un à l'autre. C'est très, très, très significatif, ça. Et c'est très, aussi très intéressant de voir ce passage constant, fragment 88. Donc, un et le même, vie et mort, tous les contraires, les plus contraires, impliquent toujours l'unité. Si tout change dans notre univers, Héraclite affirme cependant l'unité du Logos. l'unité de la sagesse, l'unité de la loi. Le monde physique, c'est le monde du changement. Le monde physique, c'est le monde de la diversité. C'est le monde des oppositions. Mais l'intelligence veut découvrir dans ses contraires le logos. Et quand elle découvre le logos, elle découvre l'unité. Ne m'écoute pas, mais le logos. Il est sage d'homologuer. Tout est un. En panta einai. Ça, c'est une formule magnifique. En panta einai. Toutes choses sont un. Voyez, le primat de l'un sur le panta. Et le panta est dans la diversité. Donc, toutes choses sont un. Et alors, il continue, car la sagesse est une. Connaître la pensée qui gouverne tout partout. La loi, c'est aussi d'obéir à la volonté de l'un. La loi ramène la diversité à l'unité. La loi, c'est aussi d'obéir à la volonté de l'un. Si l'on veut parler avec intelligence, il faut s'affermir sur ce qui est commun à toute réalité. Et toutes les lois humaines se nourrissent d'une seule divine, car celle-ci les domine. Autant qu'elle le veut, suffit et surpasse tout. Et ce besoin au milieu de l'affirmation de la diversité, le besoin de l'unité. Ceux qui sont éveillés ont un seul monde commun, tandis que chacun de ceux qui dorment se tourne vers son monde particulier. Ça, c'est une des choses très étonnantes d'Héraclite, qu'on retrouvera exactement la même chose chez les stoïciens. Chez les stoïciens, on trouvera que la passion est toujours particulière et individuelle. Alors, c'est notre monde. Il faut s'élever vers le monde commun, c'est le monde de la loi. C'est le monde de l'unification. Il y a des choses très analogues entre Héraclite et les stoïciens, sous ce point de vue-là, comme le problème de l'individu multiple. Donc on peut dire, c'est toujours intéressant de voir l'origine de toute une pensée philosophique. Héraclite, c'est sûrement le grand philosophe de l'expérience, et c'est le philosophe de l'individu multiple. C'est vrai, c'est le philosophe de l'expérience, parce qu'il le dit. Le pantareil, c'est le regard sur la réalité. Tandis qu'au contraire, Parménide, c'est le philosophe de l'un. Et on peut dire que Héraclite, du multiple vers l'un. Parménide, de l'un vers le multiple. Et on n'y arrive pas. Alors c'est curieux. Hein? Héraclite tend vers le logos un. Et on pourrait dire qu'il y arrive, d'une certaine manière. Il y arrive mieux que Parménide. Parménide part de l'un, et de l'un, il ne peut plus comprendre le multiple. Tandis qu'au contraire, Héraclite part du multiple et redécouvre l'un. C'est très intéressant, ces deux pensées. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Parce que c'est quand même... Et ça, au point de vue du problème de l'un et du multiple, c'est assez typique, hein. Il ne faut pas opposer Parménide et Héraclite, on l'a dit, mais il faut quand même voir leur diversité. Et il faut voir le cheminement tout à fait différent de l'un et de l'autre. Dialectique ascendante, dialectique descendante. Dialectique ascendante, vous voyez bien, c'est Héraclite, c'est la grande dialectique ascendante. On part du multiple vers l'un, alors que Parménide, lui, part de l'un tendant vers le multiple. Et on ne sait pas très bien comment il arrive au multiple. Les hommes à double tête. Ouais, il a dit, ah, les hommes à double tête. Alors qu'il faut la déesse qui est une. Empédocle. Donc, les deux grands premiers sont des filles. Je sais très bien que Parménide, c'est la philosophie de l'être avant de l'être la philosophie de l'un. Faut pas l'oublier. Tandis que je ne peux pas dire qu'Héraclite, c'est la philosophie de l'être avant d'être la philosophie de l'un. C'est la philosophie des contraires. Et si c'est la philosophie des contraires, c'est tout de suite la philosophie du multiple. Et c'est la philosophie du logos. C'est assez curieux, du reste. Comment les contraires conduisent au logos, comment l'être conduit à l'un. Oui. Si on veut regarder philosophiquement ces deux philosophes, c'est ce qu'on devrait se poser la question. Comment, de fait, les contraires conduisent au logos, le besoin d'unir les contraires se fait par le logos. Et le besoin, la philosophie de l'être, conduit à l'un. Et ne me conduit pas à voir la réalité du devenir. Les contraires me permettent de découvrir le devenir. C'est vrai. Et me permettent de dépasser les contraires par le logos. Mais lorsque je pars de l'être, j'ai beaucoup de peine à découvrir le devenir. Beaucoup. Ça, c'est sûr, c'est la pensée de Parménide. Pas de philosophie de la nature pour Parménide. Empédocle considérera comme inséparable l'un et le multiple. L'un naissant du multiple par l'effet de la filia, et le multiple, donc de l'amitié, et le multiple naissant de l'un par l'effet de la haine qui opposait les éléments. On aura filia, amitié et haine qui rendent compte de l'un et du multiple. Dans la mesure où l'un naît du multiple et où de nouveau le multiple naît de la dissolution de l'un, dans cette mesure les éléments apparaissent et n'ont pas de vie immuable. Mais dans la mesure où cet échange perpétuel ne cesse pas, il demeure toujours en un cycle immuable. C'est très curieux de voir là encore, c'est un problème de l'un et du multiple, c'est le problème de l'amitié et de la haine. Le problème de l'un et du multiple transposé au niveau, si vous voulez, de la vie humaine et au niveau psychologique. Une métapsychologie de la haine et de l'amitié. Anaxagore, c'est pour vous montrer que dans toute la philosophie grecque, vous retrouvez le problème de l'un et du multiple. C'est ce qui fait l'unité. Anaxagore parle du monde unique et de tout et du tout qui reste toujours égal à lui-même. Il affirme surtout que le nous, infini et autocrate, ne se mélange à rien. Et seul lui-même, par lui-même. Vous voyez, le problème de l'un, c'est le problème du nous. Le problème de l'un, c'est le problème du logos. C'est très curieux de voir ça. Des deux manières, on rejoint le problème de l'un. Anaxagore par le nous, et nous avions vu Héraclite par le logos. C'est là où on devrait essayer de comprendre un peu comment se rattache l'un, comment se rattache le multiple. Le multiple se rattache au point de départ, au contraire. Philosophie des contraires. L'un se rattache au point de départ, au logos. Nous avons là deux pôles. Avec Parménide, l'un se rattache à l'être. Il vient après l'être. Et le multiple, c'est le devenir, c'est le non-être. C'est le non-être qui explique en définitive le multiple. C'est pas si bête, hein? Mais il y a quelque chose de profond dans Parménide, là, qui est intéressant à voir. Si vous regardez un Pédocle, vous voyez que c'est à un niveau très différent, puisque, au fond, vous n'arrivez pas à quitter l'un et le multiple. Vous trouvez tout le temps les deux. À certains moments, c'est l'un qui domine, à d'autres moments, c'est le multiple qui domine. Dans Anaxagore, c'est différent. Il y a un un qui dépasse, qui est le problème de nous. C'est surtout chez Platon. Alors on peut dire, Platon est le premier grand philosophe de l'un. Vous retrouvez ça à travers Platon, à travers tout Platon. Dans la République, après avoir montré que certaines sensations invitent à penser, invitent à la noésis, et que d'autres n'y invitent pas, Platon pose la question du nombre et de l'un, qui est à résoudre d'une manière analogue. Je lis ce passage de la République, c'est dans République 7, livre 7, 524-525. Si en effet l'un, je prends la République parce que c'est peut-être le premier moment où apparaît cette grande métaphysique, cette grande philosophie de l'un. Si en effet l'un, donc le tōen, se laisse bien percevoir tel qu'il est, par les yeux ou par quelque autre sens, il ne peut nous pousser vers l'ousia. Mais si la vue de l'un offre toujours quelques contradictions, en sorte qu'il ne paraît pas plus un que le contraire, il faut alors juger pour en décider. L'âme, dans ce cas, est forcément embarrassée, et réveillant en elle la pensée, enoyan, elle est contrainte de faire des recherches et de se demander ce que peut être l'un en lui-même. Et c'est ainsi que la recherche relative à l'un est de celle qui pousse et tourne l'âme vers la contemplation de l'être. C'est assez beau, ça. Autrement dit, vous voyez ce qu'il dit, hein ? Il y a une certaine intuition de l'un. C'est assez beau de voir ça. Peut-être ça qui est au cœur de toute intuition. Il y a une certaine intuition de l'un. Mais cette intuition de l'un ne suffit pas. Il faut arriver à réfléchir, passer à une perte de réflexion. Et grâce à cette réflexion, l'un conduit à la contemplation de l'être. Donc, au fond, il reconnaît qu'ici, que l'un est comme ce qui permet de passer de la sensation à la contemplation. La sensation, la vision de l'un, immédiate, quasi intuitive, si en effet l'un se laisse bien percevoir tel qu'il est par les yeux. C'est une espèce d'intuition. Et puis, au terme, cette espèce de réflexion. Donc, on pourrait dire, voyez, que c'est l'un qui est le filarian du raisonnement. C'est ce qui nous permet de passer de la multiplicité des sensations au terme. On verra ça pour l'induction. C'est dit ici, c'est le premier aspect où on voit comment l'un permet à l'intelligence, à la connaissance, de passer du multiple vers l'un, vers la contemplation, donc vers l'unification. Platon ajoute, cette propriété, la vue de l'un, la certe au plus haut point, car nous voyons la même chose, à la fois une et multiple, jusqu'à l'infini. Mais s'il en est ainsi de l'un, il en est de même aussi de tous les nombres. Ça relativise. C'est encore dans la République, ça. 7, 525a. Donc, Platon distingue la vue de l'un, de la connaissance intellectuelle de l'un en lui-même. L'intuition première. Toute intuition porte sur l'un. Ça, il faudrait bien regarder ça. Les gens intuitifs sont pour la philosophie de l'un. C'est cela qu'on saisit. L'un, c'est quelque chose de très, très... On le saisit intuitivement. C'est vrai, c'est indivisible. Donc on ne peut le saisir qu'intuitivement. Alors Platon distingue l'intuition de l'un, la vue de l'un, de la connaissance intellectuelle de l'un en lui-même. La première demeure liée au multiple, mais elle est immédiate. Alors que la seconde est au-delà et tourne l'âme vers la contemplation de l'être. Alors l'un conduit vers l'être. Le Platon de la République. L'un semble donc être ici ce qui conduit à la contemplation de l'être. Dans la République également, recherchant ce qu'est le bien, Platon, par la bouche de Socrate, affirme « Il y a de multiples belles choses, de multiples choses bonnes, de multiples autres choses de toute espèce, dont nous affirmons l'existence et que nous distinguons dans le langage. Nous affirmons aussi l'existence du beau en soi, du bon en soi, et de même de toutes les choses que nous posions tout à l'heure comme multiples. Nous déclarons qu'à chacune d'elles aussi correspond son idée qui est unique et que nous appelons Oesti. Ceci est. » Vous voyez comme c'est curieux, hein? C'est intéressant à saisir ça. Si j'essaie de comprendre, ça c'est dans la République au chapitre 6, hein? Si j'essaie de comprendre un peu ce passage de Platon, je vois qu'au point de départ, dans l'intuition de l'un, il y a le multiple, qui est contemporain. Toute intuition n'est pas absolument pure, l'intuition liée à la sensation. Mais il y a une intuition de l'un. L'un est saisi avant le multiple, mais sur le fond du multiple. L'intuition est première et ça porte sur l'un. Puis je vois en raisonnant que l'un conduit à l'être, à la contemplation de l'être. Et je m'aperçois dans une autre perspective que les réalités bonnes sont multiples. Mais je pars aussi d'une réalité belle dans la montée, d'une réalité bonne. Puis je vois la multiplicité. Puis j'arrive au bon qui est au-delà de l'être. Le premier dépassement de l'être, ce n'est pas l'un chez Platon. C'est la bonté. Et ce sera, je crois, par la bonté que Platon découvrira que l'un est au-dessus de l'être. Mais ce n'est pas directement par l'un. Il me semble, hein, ça il faudrait regarder attentivement, il me semble. Et c'est intéressant pour comprendre la philosophie de l'un chez Platon, l'enracinement de l'un chez Platon. Il me semble bien que si on regarde les premiers textes, et la République est particulièrement importante, puisque vous savez bien, c'est la grande synthèse première de Platon, c'est Platon victorieux, la République. C'est pas Platon déçu, c'est Platon victorieux. Et alors, dans cette victoire, Platon énonce des choses étonnantes. Et quand vous regardez le problème de l'un et du bien dans la République, vous voyez bien que le bien en soi, le bon en soi, est premier. Il est au-delà de l'ousia, il est au-delà de l'être. Tandis que l'un et le multiple n'apparaissent pas directement comme au-delà de l'être. C'est ça qui m'intéresse. L'un apparaît ici comme une propriété de la forme en soi, tandis que le multiple caractérise les réalités sensibles que nous expérimentons. Et alors le reflet de la forme en soi dans les réalités physiques permet de comprendre l'intuition. De même au début du Théaetète, donc plus tard, Socrate avertit Théaetète que la recherche de la définition de la science implique que l'on comprenne la multiplicité des sciences sous une définition unique. De même que tu as su comprendre les multiples puissances par l'unité d'une forme, efforce-toi d'appliquer aux multiples sciences une définition unique. Tant qu'on demeure dans le multiple, on ne connaît pas en profondeur. C'est l'un qui permet la véritable connaissance. Mais lorsqu'il s'agit des réalités sensibles en mouvement, rien n'est un en soi et par soi. Rien n'est un, ni déterminé, ni qualifié. On peut donc dire que là où Platon veut systématiser le rapport de l'intelligible et du sensible, il le fait suivant le schème de l'opposition de l'un et du multiple. Le passage du sensible et de l'invisible. C'est l'un et le multiple qui permet ce passage. Alors il faudrait comprendre comment dans le Parménide nous assistons à la victoire de l'un. Sous l'influence de Parménide. Alors là, je crois que c'est très net. Mais vous voyez, ce n'est pas premier dans la pensée de Platon. C'est pas premier. Je ne crois pas du tout que ce soit premier dans la pensée de Platon. Je crois qu'il a fallu découvrir le bien en soi. Alors ça, c'est la République. Le beau en soi, le banquet. C'est dans ces dialogues du triomphe de la pensée de Platon, le Platon glorieux, tandis qu'au contraire, le Platon humilié, le Platon qui est secoué, très très secoué dans le Parménide, va prendre l'un comme ce qui va être la possibilité de dépasser les critiques. Je crois qu'il y a deux découvertes tout à fait différentes, hein, qui sont intéressantes à voir. Deux découvertes tout à fait différentes. Le Platon contemplatif, sûr de lui-même, très sûr de lui-même, c'est pour ça que je dis glorieux. C'est le Platon du banquet, c'est le Platon de la République. C'est ce Platon qui découvre le beau et le bien en soi et qui est l'objet de la contemplation. L'au-delà de l'être, l'au-delà des formes en soi. Et puis alors le Platon qui est sous l'aspect de la critique, où on montre les limites de la participation, où on montre combien c'est délicat le point de vue des formes en soi. Et alors, on voit là émerger quelque chose de nouveau, qui est le problème de l'un, au-delà de tout le multiple. Et ceci, il le prend à Zénon et à Parménide. Alors, il est évident qu'à partir du Parménide, on peut dire que l'un est au-delà de l'être. Et là, il y a vraiment une transformation de la pensée de Platon. Alors, il faut l'expliquer. Il faut l'expliquer. Il y a un moment qui est vraiment une transformation. C'est curieux, du reste. Ce serait très intéressant de voir le problème de l'intuition de l'un et le problème de l'un qui apparaît comme ultime, au-delà de toute contemplation, mais qui est quand même contemplé. Je contemple le bien avant tout. Je contemple plus le bien que l'un. Et c'est ce qui expliquera comment Plotin, héritier de Platon, fera que l'un est au-delà de la contemplation et qu'il faut le silence pour entrer en communion avec l'un. Et que c'est vraiment l'un qui dominera complètement. Alors, vous voyez, l'un a mis du temps à voir sa victoire, mais il l'a avec Plotin, pas avec Platon entièrement. Je ne crois pas qu'on puisse le dire entièrement avec Platon. Platon, au milieu des luttes, est saisi par le pouvoir de l'un, par la dialectique de Parménide. Et la dialectique de Parménide va montrer vraiment combien l'un est au-dessus du multiple, que les intelligibles demeurent dans le multiple. Il faut donc dépasser ce multiple des intelligibles pour arriver à l'un. Et arriver à l'un d'une façon critique, pas d'une façon contemplative.